Vos questions, nos réponses.
Bonjour à tous, bienvenue sur Alzheimer, la radio. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vos questions, nos réponses. Une émission toujours spéciale, deux semaines après le début du déconfinement, après une crise de plus de 7 semaines pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Alors, tout n'est pas terminé, bien entendu, donc restons vigilants. Sur cette antenne, vous le savez, on prend régulièrement la parole à vos côtés, personnes malades, familles, proches aidants, pour répondre à chacune de vos questions autour de la maladie d'Alzheimer. Et bien entendu, nous sommes toujours mobilisés en cette période si spéciale. La semaine dernière, vous avez été encore une fois nombreux à réagir, à poser vos questions. Merci de votre investissement et de votre fidélité. Alors malgré ce déconfinement, le contexte pour vous qui avez un proche malade à la maison ou alors en EHPAD peut rester compliqué, complexe aussi pour tout le personnel soignant qui nous écoute en ce moment. Voilà pourquoi on vous répond aujourd'hui, on continue de garder le lien. Pour répondre à vos questions ou vous apporter un conseil, nous retrouvons la psychologue de l'association France Alzheimer, Judith Mollard-Palacios. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes.
Avant de réagir à certains témoignages et questions, Judith, on va évoquer une conséquence du déconfinement, c'est l'absence de diagnostic chez certains malades qui ont montré les premiers signes de la maladie.
Oui, voilà, c'est vrai que c'est toujours compliqué d'aller faire une démarche diagnostique quand on commence à sentir que l'on oublie de plus en plus et que de plus en plus dans son quotidien, on est confronté à certaines difficultés d'organisation, de planification. Et c'est vrai que plus encore, pendant tous ces mois où les personnes ont dû rester chez elles, être privées du contact avec leurs proches, avec les professionnels avec qui elles pouvaient être également en contact, eh bien, on peut penser que certaines personnes ont développé se sont aggravées des signes cognitifs, notamment autour de la mémoire immédiate, retenir les informations et pouvoir les traiter. Et nous encourageons bien sûr à France Alzheimer le fait d'aller en parler avec d'abord son médecin traitant, celui avec qui on a une relation régulière, pour éventuellement pouvoir faire des tests neuropsychologiques, une imagerie cérébrale, éventuellement une ponction lombaire pour confirmer ou non un diagnostic de maladie d'Alzheimer ou de maladie apparentée. Alors c'est une démarche coûteuse puisque personne n'a envie de se confronter évidemment à cette réalité. Et puis on peut se dire que à quoi bon faire un diagnostic puisque tout le monde le sait, c'est malheureusement une maladie, des maladies vis-à-vis desquelles on ne peut pas apporter un traitement médicamenteux curatif. Mais pour autant, cette démarche diagnostique est d'aller se confronter peut-être à une réalité que de toute façon on vit de l'intérieur, c'est aussi se donner la possibilité de pouvoir bénéficier d'un accompagnement, qui va nous permettre d'une part de ne pas être complètement seul avec ce qui nous arrive et complètement désœuvré par rapport aux conséquences des troubles sur la vie quotidienne. Donc pouvoir en parler, pouvoir être entendu, pouvoir être écouté, pouvoir être soutenu parce que perdre ses outils cognitifs, c'est une véritable épreuve nous fait perdre de l'autonomie et c'est évidemment très, très compliqué. Et puis aussi, c'est faire cette démarche diagnostique, pouvoir accéder à un moment donné à des dispositifs, que ce soit la prise en charge orthophonique, que ce soit les accueils de jour, que ce soit des ateliers proposés par les associations départementales France Alzheimer, des ateliers de mobilisation cognitive, des ateliers d'art-thérapie, enfin tout un tas d'activités adaptées qui vont d'une part tenir compte des difficultés, mais surtout soutenir tout ce qu'on appelle les capacités préservées, parce qu'être atteint d'une maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée, ce n'est pas du jour au lendemain être complètement privé de tout. Et au contraire, hein, on peut développer même des compétences dans certains domaines qui, eux, ne sont pas touchés par hein, l'affection cérébrale. Hein. Donc vraiment, en cette période de déconfinement qui nous autorise malgré tout plus facilement à aller vers l'extérieur, à aller prendre rendez-vous auprès de son médecin traitant qui fera une première évaluation et jugera lui de l'opportunité d'une orientation vers une consultation mémoire par exemple hein, avec une équipe spécialisée qui va faire une investigation plus poussée. Les choses ne sont, enfin, sont loin d'être revenues à la normale. Les dispositifs comme les accueils de jour, les plateformes de répit se mettent très doucement en marche pour pouvoir de nouveau accueillir hein, les personnes malades, les aidants familiaux. Donc vraiment des semaines qui sont longues encore, qui voilà, n'ont pas beaucoup changé, n'ont pas changé grand-chose pour certaines familles à domicile. Et puis, ne parlons pas des EHPAD où évidemment, hein, là encore, et on l'a vu à travers tous les témoignages que nous avons reçus, encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance, hein, de sentiments d'impuissance et de peur, hein, et de crainte sur ce qui se passe pour ses proches en établissement.
Merci Judith pour ces mots rassurants. On va passer aux questions et aux témoignages que nous avons sélectionnés, car je le disais, vous avez été encore très nombreux à réagir. Alors, on va commencer par le témoignage de Beluka. Mon père souffre d'Alzheimer, c'est horrible de ne pas pouvoir lui toucher la main, lui parler de tout près. Je sens la détresse dans son regard vide, la douleur. Pourquoi tant d'acharnement? Pourquoi ne pas pouvoir être à ses côtés? Il a 89 ans et il est au crépuscule de la vie. C'est vraiment insupportable. C'est vrai, Judith, qu'il faut évoquer la question de la fin de vie.
Et oui, c'est évidemment une question auquel on ne peut pas, qu'on peut éviter, c'est-à-dire que les personnes, nos proches, qui entrent à un moment donné de leur vie, de leur trajectoire de vie, dans un EHPAD, hein, dans un établissement, sont évidemment tout près hein, de la fin de leur vie, même si on va faire en sorte que cette dernière étape hein, soit le plus possible pleine de vie, n'empêche que nos proches en établissement sont des personnes, hein, d'abord en règle générale très âgées, et qui, affectées hein, de souvent plusieurs pathologies, et pas seulement une pathologie de type maladie d'Alzheimer, hein, mais souvent polypathologiques, sont au bord, hein, en effet, de nous quitter, hein, de partir. Alors, bien sûr que le virus hein, peut accélérer le processus, hein, puisque c'est une affection évidemment auxquelles les personnes en EHPAD sont extrêmement à risque, mais c'est comme si on ne tenait pas compte du fait que de toute façon, hein, voilà, elles sont dans les quelques mois hein, de partir et de finir leur vie. Donc pourquoi voilà, ne pas assouplir hein, malgré tout ces dispositifs pour que ces derniers jours, semaines, mois de vie puissent être accompagnés par les proches, puissent être en présence de la famille. Un gériatre hein, du Val-de-Marne a hier dans Le Monde hein, fait une tribune sur le sujet pour quand même alerter sur le fait que cette fin de vie, il faut qu'elle puisse se vivre et se partager.
Alors, les conditions strictes de visite en EHPAD reviennent aussi souvent dans les témoignages que l'on reçoit, à l'image du message laissé par Christelle, une visite de 30 minutes avec mes deux parents et une surveillante qui reste pendant toute la visite, vivement qu'on puisse les voir sans contrainte. Il y aurait presque un contexte carcéral là.
Ben oui, on peut s'interroger en effet, et ce n'est pas le premier témoignage hein, que l'on reçoit de ce type-là. Une forme d'infantilisation aussi hein, des aidants familiaux que l'on ne rendrait pas responsables hein, des mesures qu'ils doivent prendre pour protéger leurs proches, avec en effet le sentiment hein, derrière un plexiglas, avec la présence d'un soignant, d'être dans un parloir d'une prison. Enfin, ça interroge quand même beaucoup et peut-être plus largement hein, ces structures d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qui doivent rester hein, des lieux de vie, des lieux où l'on garde voilà, une certaine liberté et de ne pas être sous le regard hein, d'un professionnel qui censurerait éventuellement l'interaction entre le résident et sa famille. Je crois que ça dit quand même beaucoup hein, sur la façon dont certains EHPAD, hein, attention de, il faut être attentif bien sûr, hein, mais la conception qu'ils peuvent avoir hein, et leur rapport avec la famille, avec les aidants familiaux. Et j'espère que cela nous amènera hein, à réfléchir avec ces établissements sur eh bien, de quel espace s'agit-il hein. Ça n'est pas un espace d'enfermement, ça n'est pas un espace d'emprisonnement et on doit garder une possibilité hein, aussi, dans certaines conditions, d'aller et venir.
Un autre message de Suzy. J'ai pu voir mon père à travers la fenêtre ouverte, mais à peine il m'a regardé, il a dit « ferme ça » et il est parti. Ma maman, qui m'avait accompagnée toute décomposée, n'a pas compris. Elle aussi est atteinte de cette maladie, mais au moins, je l'ai vue. J'espère que ce sera mieux la prochaine fois. On sent qu'il y a beaucoup d'incompréhension quand même de la part des malades dans ce contexte si spécial.
Ben oui, hein, on sait en effet que la maladie d'Alzheimer, et notamment dans ses formes évoluées, ne permet pas à la personne hein, de s'adapter à des situations nouvelle, hein, c'est beaucoup plus difficile et de plus que l'analyse qu'elle va faire d'une situation ne va pas tenir compte hein, de l'ensemble des éléments qui la constituent. Peut-être, je ne sais pas si c'est la raison, mais peut-être que ce monsieur, quand il s'est retrouvé devant cette fenêtre ouverte, hein, a senti un courant d'air et à traiter uniquement cette information hein, de la nécessité, quand il y a un courant d'air, de fermer la fenêtre. Alors, c'est un exemple, hein, je ne sais pas du tout si c'est ce qui s'est passé pour ce monsieur, mais tout ça pour dire que, évidemment, hein, ce contexte complètement inédit, pour lequel aussi les personnes malades n'ont pas de repères, hein, c'est une situation qu'elles n'ont jamais vécue, donc elles ne peuvent pas faire référence à quelque chose de déjà familier hein, pour comprendre et adapter leur comportement. Et bien évidemment, pour la famille hein, qui peut-être a fait plusieurs kilomètres pour simplement hein, apercevoir son parent à travers une fenêtre, et bien c'est évidemment très, très douloureux parce que se rajoute aux restrictions, aux contraintes hein, de l'interaction, et bien le fait que la personne ne puisse pas hein, comprendre la situation et s'y adapter, et c'est évidemment très douloureux.
Alors concernant les EHPAD, il y a aussi ces familles qui veulent retirer leurs proches de ces établissements. C'est le cas de Christine par exemple, elle dit qu'elle n'ira plus voir sa sœur atteinte d'Alzheimer dans ces conditions. À chaque fois, elle croit que je viens la chercher et elle pleure. En 2 mois, son état s'est considérablement dégradé. Impossible d'avoir une conversation sensée comme avant. Qu'est-il prévu comme mesure dans les EHPAD dans un avenir proche? Car je songe à l'en retirer, surtout si le confinement devait continuer dans les établissements. Et puis c'est le cas également de Barbara. Notre maman souffre d'une maladie apparentée Alzheimer. Nous l'avons sortie après 2 mois d'enfermement, dont 1 mois enfermée dans sa chambre. Nous l'avons récupérée dans un état de dégradation physique et mentale. Nous sommes très déçus de l'EHPAD qui a géré la crise, cette crise de manière radicale, sans penser au bien-être de ses clients et non résidents, comme ils disent. Nous essayons de sortir maman de son traumatisme. Pas facile, car le mal est fait. Judith, il ne faut pas oublier non plus cette réalité.
Et oui, et puis on entend ces mots hein, qui résonnent de façon très douloureuse, de traumatisme, hein, de détérioration, d'enfermement. Enfin, oui, je crois qu'il y a quelque chose, en effet, du traumatisme. Hein. Il y a quelque chose qui fait trauma du côté du résident, hein, du côté de la famille, et qui est insupportable. Hein, et la seule voilà, possibilité hein, de se sortir de ce cauchemar, hein, puisque je pense vraiment que pour certaines familles, il s'agit de et pour certaines personnes âgées, bien sûr, pas toutes, mais certaines d'entre elles, il s'agit véritablement d'un cauchemar duquel il faut sortir. Et puis, c'est évoqué aussi dans ces témoignages, c'est-à-dire que le confinement a débuté avant hein, le confinement national dans les EHPAD, mais surtout le déconfinement dans des conditions acceptables on n'en voit pas le bout pour le moment, hein. On n'a pas beaucoup de visibilité sur les mois qui viennent, hein. Donc on peut comprendre, hein, évidemment, que certaines familles prennent la décision, même si c'est certainement compliqué pour elles en termes d'organisation, mais d'accueillir, hein, de sortir la personne âgée de l'EHPAD. Je crois qu'il faut aussi rappeler que cette décision d'une entrée en établissement, elle est aussi extrêmement éprouvante, hein, en amont, hein, de l'accueil en établissement d'un proche malade. Elle est culpabilisante souvent. On se pose toujours la question de savoir quel effet cette entrée en établissement va produire sur son proche malade, hein. Est-ce que celui-ci va s'y adapter? Est-ce qu'il va trouver des repères? Est-ce qu'il ne va pas décompenser? Est-ce que... Donc, déjà, hein, il y a eu ce moment difficile au moment de l'entrée, et comme s'il y avait quelque chose de réactivé là, dans ce contexte, hein, du confinement, enfin, qui certainement est intolérable en effet pour certaines familles, avec, comme on l'entend aussi dans le témoignage, des personnes qui peuvent vivre ça comme une véritable situation d'abandon, hein, de se sentir lâché, abandonné par ses plus proches.
Heureusement, il y a aussi ces témoignages positifs, ces joies, avec le message de Véronique. La plupart des personnels soignants en EHPAD ont eu à cœur de s'occuper, de divertir, d'accompagner, de parler, de faire rire vos parents ou grands-parents, mais surtout de leur sauver la vie ou, hélas pour les disparus, quelqu'un pour être près d'eux, pour leur tenir la main. Je sais que ce n'est pas partout pareil pour plusieurs raisons, mais chez nous, chapeau bas à toutes nos blouses blanches. Ça fait du bien de dire ça.
Oui, heureusement, hein, évidemment qu'il y a de nombreux EHPAD où les choses se sont passées le plus doucement possible, hein, de façon la plus adaptée possible. Et puis, il faut aussi, hein, se dire que le contexte des équipes soignantes en EHPAD est un contexte déjà, avant confinement, avant pandémie, extrêmement tendu. Avec des contraintes, hein, de travail, avec une charge de travail qui, on le sait, hein, est extrêmement importante, hein. Il manque de personnel soignant dans les EHPAD. C'est aussi un travail qui confronte les soignants sans arrêt, hein, à la fin de vie, au fait de investir une personne, même si attachée, hein, je crois qu'on ne peut pas faire autrement, mais en même temps de devoir s'en détacher parce qu'à un moment donné, elle s'en va, elle nous quitte, elle meurt. Donc des soignants qui ont éprouvé aussi, hein, beaucoup dans leur intériorité, dans leur identité, avec parfois pas toujours de la reconnaissance financière, de la reconnaissance sociale et de la reconnaissance parfois aussi, hein, des familles. Donc on peut vraiment là aussi leur faire un hommage, hein. Moi j'ai vu des soignants qui ont tenu, qui ont renoncé à leur congé, hein, depuis 2-3 mois, qui ont eu à cœur, hein, d'apporter aux résidents une affection, hein, qu'ils ne pouvaient plus tout à fait recevoir de la même façon par leurs proches. Enfin, vraiment des soignants, alors qu'on a applaudi tous les soirs à 20h, qu'on veut faire défiler au 14 juillet, qui auront une prime, hein. Mais je pense qu'il faudra, là aussi, que ça ne s'arrête pas une fois que le virus, hein, aura disparu ou que le vaccin sera apparu. Vraiment des professionnels pour qui on ne peut avoir qu'une grande admiration et qui vivent eux aussi dans cette période de confinement, voilà, des situations très, très, très éprouvantes, et eux-mêmes se sentent vraiment, hein, pour en avoir entendu beaucoup là pendant ces 2 mois, qui se sentent voilà, impuissants, hein, et qui tentent de faire au mieux. Voilà, il va y avoir, hein, des répercussions importantes, hein, dans les mois qui suivent pour ces professionnels des EHPAD, et qu'il faudra être vraiment attentif à leurs besoins et réfléchir, hein, à la suite. Je pense que c'est vraiment très important.
Merci beaucoup Judith Mollard-Palacios de nous avoir accompagnés une nouvelle fois et d'avoir répondu à ces questions, à ces inquiétudes. On vous retrouvera bien entendu dans une prochaine émission.
Merci et à très bientôt. Au revoir à toutes et à tous.
Merci à vous tous, chers auditeurs, de vos nombreuses questions, de vos témoignages. On tâchera d'y répondre une nouvelle fois lors d'une prochaine émission. Rendez-vous vendredi prochain à 9h. Vous pouvez laisser votre commentaire en dessous le player de la radio ou sur la page Facebook de l'association. Nous restons bien entendu mobilisés pendant cette période, plus que jamais à vos côtés. Vous pouvez réécouter l'ensemble de nos émissions en podcast sur l'application mobile de la radio ou sur la page de la radio www.radiofrancealzheimer.org. Prenez soin de vous, à bientôt.
Vos questions, nos réponses.